Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, les neurosciences sont-elles trop présentes à l'école ? Dans la scène 10 de l'acte 3 du Malade imaginaire, Argan, le malade, fait face à Toinette, sa servante, travestie en médecin. À chacun des mots avancés par son maître, douleur de tête, voile devant les yeux, colique, celle-ci répond invariablement « C'est du poumon que vous êtes malade, le poumon, vous dis-je ». Eh bien, transposée au XXIe siècle, la fameuse réplique serait sans doute différente. Exit le poumon, place à un autre organe au statut devenu quasi hégémonique sous l'influence des neurosciences. C'est le cerveau, vous dis-je. Ah, évidemment, c'est exagéré, mais ce qui ne l'est pas, c'est la place de plus en plus importante prise par cette discipline portée par les progrès de l'imagerie cérébrale. Les neurosciences connaissent un formidable essor. Preuve de leur nouvelle centralité, le Conseil scientifique de l'éducation nationale, installé en janvier dernier et qui a vocation à guider la politique éducative, est présidé par le neuroscientifique Stanislas Dehaene, la star française de la discipline. Une nomination qui a fait grincer quelques dents. Les syndicats d'enseignants notamment s'inquiètent d'une possible mainmise des neurosciences sur la politique éducative au détriment de l'expertise de terrain des pédagogues. Alors les neurosciences prennent-elles trop de place à l'école ? C'est le thème de notre discussion ce soir en compagnie de trois invités. Gérard Pommier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre et psychanalyste, directeur de recherche à Paris 7. Vous avez publié notamment chez Flammarion « Comment les neurosciences démontrent la psychanalyse ». C'était en 2010. Pour discuter avec vous, Stanislas Morel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Saint-Étienne. Et on vous doit la médicalisation de l'échec scolaire, c'était en 2014, aux éditions La Dispute. Et puis notre troisième invité est à Avignon, dans les studios de France Bleu Vaucluse. Il s'agit de Liliane Springer-Charolles. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes linguiste, spécialiste de l'apprentissage de la lecture, directrice de recherche émérite au CNRS. Vous avez publié chez Dunod en 2013 « Lecture et dyslexie, approche cognitive ». Et vous faites partie de ce Conseil scientifique de l'éducation nationale dont j'évoquais l'installation en janvier. C'est d'ailleurs à vous, Liliane Springer-Charolles, que je voudrais poser la question. Ça fait 3 mois que ce Conseil scientifique de l'éducation nationale est installé. Donc, ça sert à quoi et qu'est-ce que vous y faites ?
Mais déjà, je voudrais revenir sur le titre de l'émission, c'est pas les neurosciences qui sont présentes essentiellement dans le Conseil scientifique de l'éducation nationale, mais ce sont les sciences cognitives. Qu'est-ce que sont les sciences cognitives ? C'est quelque chose qui est pluridisciplinaire par définition. Elles ont été créées, disons, autour dans les années 56 aux États-Unis avec un psychologue, Miller, qui a travaillé sur la mémoire, le nombre magique 7 plus ou moins 2. Un linguiste, Chomsky, et deux spécialistes de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire du traitement de l'information, qui étaient Miller et Simon. Et très tôt s'est rajouté à ce courant quelqu'un qui est très connu en France dans le domaine de l'éducation, c'est Brunner, qui travaille sur comment on traite les informations et comment on va faciliter l'apprentissage. Et hors de France, ce courant cognitiviste était soutenu, par exemple, à Moscou par Luria, qui, lui, était neurologue et qui a travaillé aussi sur la mémoire. Enfin, le cas Benjamin, c'est l'homme qui avait une extraordinaire mémoire et qui était en lien avec Vygotsky, quelqu'un très connu aussi dans le domaine des sciences de l'éducation en France. Et de notre côté, en Suisse, Piaget.
Liliane Springer-Charolles, pardonnez-moi, je vous interromps parce que c'est à la fois intéressant de refaire un petit peu l'histoire, mais comme on n'a pas beaucoup de temps pour la discussion, et je voudrais vraiment qu'on aille au fond de cette discussion, si vous voulez bien, je voudrais quand même juste, si vous pouvez répondre donc à ma première question, c'est-à-dire ce Conseil scientifique de l'éducation nationale, qu'est-ce que vous y faites et en quoi, justement, alors les sciences...
On essaie d'intégrer les sciences cognitives et pas les neurosciences.
De quelle manière, justement ?
De quelle manière ? Par des discussions. Ça se met en place, c'est lent. Et c'est vrai que la temporalité politique n'est pas la temporalité scientifique. Il faut faire attention à faire coïncider les deux et ne pas aller trop vite. Donc, on essaie de faire passer au niveau de l'éducation et du ministère un certain nombre de résultats des recherches, et surtout pas uniquement des neurosciences. Largement des sciences cognitives qui intègrent l'éducation dès le début.
Alors,
et des chercheurs.
Alors, Gérard Pommier, pour qu'on puisse vraiment bien faire circuler la parole, hein, Liliane Sprager-Charolles, et je m'adresse aussi aux autres invités, que vous puissiez vraiment être dans une discussion, je voudrais qu'on entende quand même aussi et Gérard Pommier et Stanislas Morel. Gérard Pommier, donc oui, vous, au moment de la création de ce conseil scientifique, vous avez réagi notamment en critiquant quoi, un déséquilibre en faveur, alors quoi, en faveur des neurosciences,
c'est pas seulement un déséquilibre de ma part, de même de la part que des 3000 spécialistes de terrain qui ont soutenu notre mouvement. Il s'agit plutôt d'un coup de force politique qui impose dans le domaine de l'éducation de manière absolument hégémonique une discipline qui n'a que des rapports très lointains avec les apprentissages, avec la manière de réagir des enfants à ce qui est le fond de leurs problèmes, c'est-à-dire avant tout des problèmes familiaux, des problèmes sociaux, des problèmes psychiques, qui ont été la manière, je dirais, depuis qu'il y a ces problèmes éducatifs, d'aborder les problèmes. Donc, d'un seul coup, on nous dit c'est le cerveau, comme si le cerveau était le centre des problèmes éducatifs, alors que le cerveau n'est qu'un instrument.
Et il est donné... Gérard Pommier, ce conseil scientifique, il est pluridisciplinaire.
Non,
et en plus, il n'en est qu'au début. Donc, qu'est-ce qui vous... Mais
écoutez, il y a une hégémonie de 12 cognitivistes qui se font passer partout pour des neuroscientifiques. Ce ne sont pas, comme ça vient d'être rappelé, ce ne sont pas du tout des neuroscientifiques. Ils s'appuient de manière indue sur les neurosciences. Par exemple, le titre du dernier livre de M. Dehaene, Le code du cerveau. Le code, ça veut bien dire qu'il y a un déterminisme génétique. M. Ramus, qui est le bras droit de M. Dehaene, déclare dans une récente déclaration au Point que les problèmes éducatifs sont dus entre 30 à 50 % à quoi ? Au génome, il cite son article. C'est quand même assez grave. Ça veut dire que les enfants qui ont des problèmes, ce ne sont ni des problèmes familiaux, ni des problèmes sociaux, ni psychiques. Ce sont des problèmes génétiques. Cela fait des enfants des handicapés ou même plus graves.
Alors je vais revenir très vite vers vous, Liliane Sprager-Charolles, pour savoir si vous reconnaissez dans ce que vient de dire Gérard Pommier le conseil scientifique auquel vous appartenez. Mais Stanislas Morel, est-ce que vous feriez, vous, le constat d'une, alors je ne sais pas si on peut parler d'offensive, mais en tout cas d'une place de plus en plus importante aujourd'hui prise par les sciences cognitives, prise par les neurosciences dans le domaine de l'éducation et de la politique éducative?
Oui,
si alors, oui, pour quelle raison d'ailleurs?
Déjà, je constate qu'il y a une sorte de franchise dans les propos de Liliane Sprager-Charolles, puisque elle dit bien que ce conseil scientifique a pour mission d'intégrer les recherches en sciences cognitives. Après, moi, j'ai personnellement été confronté à des interlocuteurs que quand je leur parlais de la fermeture du conseil, ils me disaient mais non, il y a des sociologues, des représentants de sciences de l'éducation, etc. En fait, derrière l'affichage de pluralisme, ce conseil scientifique est une fermeture très nette, puisque finalement tous les chercheurs qui appartiennent à ce conseil scientifique partagent deux propriétés principales. Ce sont des chercheurs qui sont acquis, pour la plupart, aux méthodes des sciences expérimentales, hein, c'est-à-dire avec des méthodes contrefactuelles, avancée de l'hypothèse, vérification de l'hypothèse, etc. Ce sont des chercheurs, par ailleurs, deuxième point...
C'est quand même un des fondements du travail scientifique.
Oui, mais il y a plusieurs épistémologies. Les sciences sociales n'ont pas la même. Hein, quand on est sociologue, quand on va étudier dans une classe, on ne peut pas faire un protocole de laboratoire. Voilà. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, pour les sociologues, il y a un retour en arrière évident. Deuxième propriété, ce sont des gens qui font tous des recherches sur l'efficacité, la performance. Pour tout vous dire, donc, ce conseil scientifique met à l'écart toute une série de chercheurs, hein, qui sont, par exemple, qui sont dans la psychologie clinique, qui sont dans les recherches monographiques, qui sont dans les recherches historiques, qui sont aussi dans la recherche du sens, du comment, etc., et non pas simplement de la performance. Donc, de mon point de vue, effectivement, ce conseil scientifique est une véritable fermeture, alors qu'il est censé représenter, hein, une forme de pluralisme.
Liliane Sprager-Charolles.
Mais écoutez, j'ai essayé d'expliquer que dès le départ, les sciences cognitives se définissaient comme interdisciplinaires, c'est-à-dire intégrant la psychologie, l'intelligence artificielle, la linguistique et les sciences de l'éducation. Que fait-on de Brunner ? Est-ce que Brunner n'est pas un chercheur phare dans le domaine des sciences de l'éducation ? Est-ce que ce n'est pas lui qui a essayé de définir des concepts clés qui facilitent les conditions d'apprentissage pour tous ? Et c'est Mérieux qui s'appuie sur Brunner. Et Brunner est un cognitiviste, c'est un socio-cognitiviste. Et les sciences, comme vous l'avez dit, Monsieur Gardette, les sciences sont une méthode. Et une méthode qui était définie dès le début par Langevin et Vallon. Vallon qui ont fait qui ont été à l'origine d'un plan de modification du système éducatif. Et défendu par Mialaré, qui a fondé les sciences de l'éducation. Alors, il y a des discours qui sont difficilement acceptables.
Qu'est-ce que les sciences cognitives peuvent permettre de comprendre en matière justement de pédagogie, d'éducation, Liliane Springer-Charol ?
Mais si il y a un domaine où la France va mal, les sociologues ça l'ont bien fait remarquer, c'est le domaine de la lecture. Si on regarde les résultats des enquêtes Pearls et PISA pour des élèves de 15 ans, il y a de plus en plus de bons qui ont des notes meilleures et meilleures. C'est très bien. Il y a de plus en plus de mauvais qui sont de plus en plus nombreux et qui ont des notes de plus en plus basses. Donc la France est un pays qui est complètement antidémocratique sur la lecture. C'est ce qu'on observe aussi pour les enfants de 10 ans. Les enfants de 10 ans en France sont de plus en plus faibles, pour les plus faibles, et les résultats là, dans cette enquête-là, des meilleurs ont baissé aussi. Donc on n'a pas l'écartement dans l'enquête PISA qu'on observe dans l'enquête Pearls, qu'on observe dans l'enquête PISA, mais on a un résultat qui est désastreux. Mais c'est ça qu'on essaye de comprendre en sciences cognitives et avec l'aide plus récente des neurosciences pour essayer de trouver les moyens de rendre l'apprentissage de la lecture en particulier plus efficace pour tous les enfants. Et en particulier pour ceux en situation de handicap. Parce que quand on a parlé du handicap, mais le handicap, il y a des situations qui ne résultent pas de problèmes familiaux, comme la dyslexie. La dyslexie, on trouve des dyslexiques dans tous les milieux, mais qui résultent bien de particularités du fonctionnement de ces enfants.
Alors ça, c'est vrai quand même que Gérard Pommier et Stanislas Morel, c'est un vrai argument. C'est-à-dire qu'il y a ces enquêtes qui existent, qui témoignent de grosses difficultés du système scolaire français. Alors, sauf à contester le résultat de ces enquêtes, mais si on considère que ces enquêtes disent en partie vrai, même après, si on peut toujours les nuancer, est-ce que il faut pas se rendre à l'évidence que jusqu'à présent, en tout cas, avec peut-être les méthodes d'apprentissage classiques, on n'est pas parvenu à lutter contre les inégalités du système scolaire français, à lutter contre les problèmes justement qui peuvent être liés à cet apprentissage de la lecture. Et pourquoi ne pas se servir aussi des sciences cognitives et des neurosciences pour essayer d'améliorer les choses, Gérard Pommier ?
Oui, mais ces enquêtes sont tout à fait vraies. Elles font un relevé de l'état des lieux. C'est sur la question de la causalité sur lequel nous sommes absolument en désaccord. Ce n'est pas du tout dans le cerveau qu'il y a des problèmes qui causent la dyslexie. C'est-à-dire quoi ? Des problèmes de division du corps et du cerveau entre la droite et la gauche qui vient interférer dans la formation des lettres et dans l'apprentissage par les enfants. Or, ces problèmes droite-gauche, ce sont des problèmes psychiques, fondamentalement. Ce ne sont pas du tout des problèmes, neuroscientifiques. Alors, c'est vrai que les cognitivistes peuvent faire un relevé, en quelque sorte, des photos, prendre des photos de ce qui se passe et ainsi de suite. Mais si on s'intéresse à la causalité, la question de la dyslexie n'est pas une question génétique. Contrairement à ce que dit Monsieur Ramus, qui encore.
Mais là, c'est pas ce que nous a dit Liliane Springer-Charol.
Mais c'est pas ce qu'elle vous a dit. Elle vous parle du relevé d'une enquête sur laquelle je suis tout à fait d'accord. Il est vrai qu'il y a un retard extraordinaire du traitement de ces problèmes, mais si on compte traiter ces problèmes de manière neurodéveloppementale, on n'obtiendra absolument pas d'autres résultats que les résultats qui seront ceux du contact des personnes qui s'occuperont des enfants et qui les aideront. C'est pas du tout les schémas cognitivistes qui aideront quoi que ce soit. Encore une fois, les photos du terrain... Si vous prenez des photos d'un avion, de la géographie d'un pays, c'est pas ça qui vous apprendra à construire un barrage sur un fleuve. Non, il faut le spécialiste qui connaisse exactement pourquoi, comment ça se passe exactement pour tel et tel enfant. Il faut des spécialistes de terrain. Il faut pas du tout des gens qui s'occupent de comment un neurone est connecté à un autre. On trouvera toujours comment un neurone est connecté à un autre.
Sauf que la façon dont ça se connecte et la façon dont on stimule le oui. cerveau peut aussi justement avoir un impact sur la façon dont on apprend
et dont on apprend une langue. Non, ça sert pas grand chose. Ce qui compte, c'est de trouver la causalité du problème. La causalité du problème, c'est l'enfant qui souffre, qui la possède, ou sa famille qui la possède, je veux dire, qui en possède la clé. C'est ça. Hein. On peut pas penser que de l'extérieur, on va pouvoir lui mettre un programme qui va l'aider autrement que d'une manière personnelle, individuelle.
Stanislas Morel, les sciences cognitives et les neurosciences peuvent quand même avoir un intérêt pour aider à établir le diagnostic pour essayer de comprendre finalement ce qui dysfonctionne dans le système éducatif. Et si oui, est-ce que ça doit s'arrêter là ou bien est-ce que ça peut aussi servir à faire des préconisations?
Écoutez, de ce point de vue-là, je serais peut-être un peu plus nuancé que Monsieur Pommier. Moi, il me semble que ce que j'ai lu et les collaborations que j'ai avec des cognitivistes me semblent intéressantes. Et il y a des aspects comme toujours intéressant de se poser la question comment ce qui se passe dans le cerveau quand on déchiffre des correspondances graphophonémiques, des opérations, des processus cognitifs, etc., qui sont intéressants de comprendre. Encore une fois, le problème, c'est quand ces questionnements intéressants en finissent par prendre toute la place. Moi, de mon point de vue, c'est ça le problème. Et de ce point de vue-là, pour être un peu relativiste, si vous voulez, je pense que aussi bien l'impérialisme psychanalytique que sociologique que cognitiviste pose problème. Et c'est ça le problème, plus que l'intérêt. Je pense que tout le monde, enfin beaucoup de gens sont d'accord pour dire qu'il y a un intérêt des sciences cognitives. Et Monsieur Pommier, le premier, qui s'intéresse beaucoup aux neurosciences, mais c'est pas ça la question.
Mais il se manifeste comment cet impérialisme? Alors appelons-le comme ça. Cognitiviste, c'est-à-dire est-ce que c'est dans les classes qui se manifeste aujourd'hui, Stanislas Morel? Moi, j'ai un petit peu perdu le contact avec notamment l'école primaire. Mes enfants sont un petit peu grands, mais j'ai jamais vraiment entendu parler de cette intrusion-là de manière, en tout cas, aussi manifeste.
Alors, déjà, il y a une chose, c'est que là, on est en train de parler de débats qui se situent au niveau scientifique, au niveau des débats politiques. Vous savez que l'école est une institution qui est dure à changer, hein, et que donc, effectivement, c'est pas pour demain que les enseignants vont appliquer les préconisations des neuroscientifiques, comme ils n'ont pas appliqué celles des sociologues ou des psychanalystes. Donc, il y a une autonomie du monde scolaire qui est difficilement...
Autonomie et pragmatisme, on va dire, qui protège peut-être justement de trop fortes intrusions, quelles qu'elles soient.
Tout à fait.
Mais je voulais vous laisser poursuivre par rapport à cette question justement, c'est-à-dire il y a peut-être une intrusion, mais qui pour l'instant n'est pas encore, comment dire, n'est pas encore dans les classes, c'est ça?
Alors non, elle est en train de se construire. Et si vous voulez, moi je pense que la plupart des enseignants ne vivent pas les sciences cognitives comme une discipline invasive, etc. Ils ont l'impression d'être toujours relativement autonomes dans leur classe. Le problème, c'est plus quelque chose qui se construit à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a les chercheurs en neurosciences, mais qui font pour certains du très bon boulot, puis qui sont prudents, contrairement à... Il y en a d'autres qui sont moins prudents, mais il y en a beaucoup qui sont prudents. Mais il y a aussi une instrumentalisation de cette recherche en neurosciences, des fois par les hommes politiques, si vous voulez. Des hommes politiques comme Gilles de Robien en 2006, qui disait, voilà, on a montré que la syllabique faisait ceci, cela. Alors, bon, même les chercheurs en neurosciences étaient plus nuancés sur ces questions. Et si vous voulez, il y a aussi tous les parents qui se saisissent de ces questions-là, dans un contexte où la compétition scolaire n'a jamais été aussi importante. Par exemple, tout ce qui est ces diagnostics dont parlait Liliane Springer-Charol sont des diagnostics, il y a des usages sociaux très importants. Faire reconnaître que son fils est précoce intellectuellement, c'est aussi se donner des leviers de pression sur les enseignants, etc. Donc toutes ces questions sont saisies, dans les médias notamment, avec tous ceux qui vont critiquer l'école, qui vont parler de la crise de l'école en s'appuyant là-dessus. Donc ça fait quelque chose qui devient une polémique, une controverse. Bon, d'ici à ce que ça change véritablement les pratiques des enseignants, ça c'est autre chose.
Est-ce que pour l'instant, vous avez, vous, constaté des changements de pratiques qui seraient des changements de pratiques qu'on va dire contraints, disons, Gérard Pommier, oui. qui poseraient problème, justement, dans
bien
l'enseignement
sûr, bien sûr.
Par exemple.
Bien sûr, il existe des recommandations de l'éducation nationale dans certaines régions de France qui indique aux enseignants comment faire des diagnostics du TDAH, des enfants agités, qui leur disent exactement la démarche à suivre et ainsi de suite, alors qu'on sait très bien que ce diagnostic TDAH est hautement contesté au niveau international, qu'il aboutit à la prise de Ritaline pour beaucoup d'enfants, qu'aux États-Unis, ça a donné 8 millions d'enfants qui prennent de la Ritaline tous les jours. Comme par hasard, les enfants dans des zones défavorisées de la ville. Donc il y a déjà des recommandations de l'éducation nationale pour dépister ce diagnostic qui est fait pour vendre des médicaments. Ce sont des recommandations politiques. Le rôle de ce conseil scientifique, dont j'espère bien qu'il va être remplacé par des spécialistes de terrain, ce rôle est éminemment politique. C'est un rôle ségrégatif qui justifie la ségrégation des enfants à l'école et l'orientation d'un certain nombre d'entre eux dans des voies où ils seront étiquetés handicapés. C'est déjà ce qui arrive.
Voilà, et justement, alors je voulais redonner la parole à Liliane Sprenger-Charles. Est-ce que ça, c'est pas quand même un des problèmes, en tout cas, si c'est un problème, un des risques d'assigner certains enfants finalement dans une forme d'échec en disant, ben voilà, on fait le constat que du fait des diagnostics qu'on a pu établir, ceux-là ne sont pas aptes peut-être du coup à apprendre de la même manière que les autres. Est-ce qu'on n'est pas, remplace pas un déterminisme sociologique qui a peut-être eu quelques abus avec notamment les sociologues par un déterminisme biologique aujourd'hui.
Mais si l'école ne peut pas intervenir sur les déterminismes sociologiques, elle peut intervenir sur les déterminismes linguistiques et les handicaps aussi de type psycho. Mais si on regarde pour la dyslexie, écoutez, on a passé 3 ans à faire un rapport d'expertise, on était 10 experts. Et ça n'a donné pratiquement rien sur la dyslexie, dysorthographie et dyscalculie, sur les troubles spécifiques des apprentissages. Les médecins nous ont accusés d'être trop pédagogues et les pédagogues nous ont accusés d'être trop du côté médical. Je pourrais vous lire les critiques que Berrieux a fait de ce rapport, elles sont écrites dans le rapport. Tout est faux, tout ce qu'il dit est faux.
Voilà. Donc je n'ai pas le temps de le lire. Merrieux, c'est Philippe Merrieux, j'imagine.
C'est Philippe Merrieux. Tout est faux. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris le temps de lire le rapport. Il a dit qu'on ne s'intéressait pas à une variable environnementale qui est la langue d'apprentissage. Or, il y a toute une... C'est-à-dire, est-ce que les enfants apprennent de la même façon à lire en anglais qu'en français, qu'en espagnol? Est-ce qu'ils apprennent de la même façon à lire dans une écriture alphabétique que dans une écriture comme le chinois, qui est une écriture logographique? Ça, c'est un problème qui est au cœur des sciences cognitives et qui est au cœur de l'éducation sur lequel on peut intervenir. Il y a plein d'informations sur ça dans ce rapport. Or, Merrieux écrit, je ne sais plus, attends, je n'ai pas la citation exacte, qu'en tous les cas, on ne s'est pas posé cette question qui est centrale pour l'apprentissage de savoir s'il y a des différences entre langues. Ça occupe un quart du rapport, pratiquement, cette question. Donc, ça discrédite les propos de certains qui essaient de dire qu'on ne tient pas compte de facteurs dont ils s'occupent eux. Bon, on s'occupe des variables linguistiques.
Bon, en tout cas, on entend que, et pour Franck Ramu d'un côté, pour Philippe Merrieux de l'autre, les oreilles vont peut-être un petit peu siffler ce soir. Mais ce que je voudrais comprendre, Liliane Sprenger-Charolles, c'est est-ce que, du coup, les sciences cognitives permettent de préconiser des méthodes qui peuvent fonctionner pour tous, ou bien est-ce que l'idée, c'est d'avoir des méthodes qui sont adaptées presque élève par élève?
Alors, justement, ce qu'on essaie de faire, c'est des méthodes adaptées, par exemple des méthodes qui partent du numérique, où chaque enfant peut s'adapter à son propre rythme d'apprentissage. Ça vient de l'auto-apprentissage. Mais pour revenir plus haut à la question des méthodes, qu'est-ce qu'on peut préconiser face aux résultats des sciences cognitives intégrant les sciences de l'éducation? C'est toutes les expériences qui ont été faites à l'étranger montrent qu'une méthode phonique qui s'appuie sur les correspondances entre les unités de base de l'écrit, qui sont les lettres ou groupes de lettres, qui transcrivent les sons élémentaires de l'oral, ces méthodes sont les plus efficaces. Ça a été démontré plusieurs fois dans plusieurs études à travers le monde. On a montré ensuite, plus récemment, là on est dans le domaine des sciences cognitives, là on passe dans le domaine des neurosciences, qu'une méthode qui apprend systématiquement les relations graphie-phonie va modifier la structure du cerveau, pour rendre certaines zones visuelles plus sensibles au traitement des lettres qu'au traitement des autres formes visuelles. Pour donner une image, si vous avez un triangle, un rond et un carré, et que vous avez le mot « vol », Mais il y a une zone particulière, qui est la Visual World of Our Form, c'est la zone qui a rendu célèbre Stanislas Dehaene, mais aussi, ça vient des travaux de Laurent Cohen et de Ghislaine Dehaene-Lambers, c'est la zone qui s'est progressivement spécialisée pour la lecture. Elle s'est recyclée. Dire la lecture est une activité trop récente pour avoir des prédispositions cérébrales. Donc on a utilisé une zone qui était capable de traiter des informations fines pour traiter la lecture. Or, quand on regarde ce qui se passe quand un enfant ou un adulte qui devient lettré tardivement est soumis à ce type de méthode, donc où il apprend plus vite, mais on s'aperçoit que ça va restructurer son cerveau et que la visual word formeria va être plus activée par la lecture et que tous les traitements autres, comme les traitements du visage, vont passer dans l'hémisphère droit. Donc ça va, c'est l'effet de l'entraînement va avoir un effet de modification dans le cerveau de la zone qui est spécifiquement dédiée au traitement des mots en lecture. Et quelle est la spécificité de cette zone, à part d'être dédiée au traitement visuel fin, c'est qu'elle est reliée aux autres zones du langage oral. Les zones du frontal et les zones dont Wernicke et Broca avaient montré l'existence. Donc ce que redécouvrent les sciences cognitives maintenant avec de nouvelles méthodologies, c'est des découvertes du 19e siècle fondamentales pour comprendre comment on peut parler.
Alors justement, Liliane Sprager, Charol, j'allais y venir, parce que finalement, ce que vous nous expliquez, il y a sans doute des choses que un certain nombre d'enseignants, même sans doute beaucoup d'enseignants, connaissent déjà. Est-ce que finalement, et c'est peut-être ça aussi une des bonnes nouvelles, Stanislas Morel, est-ce que les sciences cognitives ne viennent pas valider un certain nombre de pratiques d'apprentissage qui existent déjà dans les classes et dont les enseignants ont pu faire justement l'usage de manière assez finalement pragmatique, c'est-à-dire en se rendant compte que ce qui fonctionne le mieux dans un certain nombre de cas, c'est peut-être, alors on va pas reparler de la guéguerre entre méthode syllabique et méthode globale, parce que tous les enseignants vont vous dire que ça n'existe plus depuis belle lurette, mais en tout cas ça valide quand même des méthodes d'enseignement qui existent déjà depuis longtemps, non ?
Alors, moi j'ai pas fait de recherche personnellement là-dessus, mais pour fréquenter très souvent le monde enseignant, c'est vrai que aussi bien les syndicats que beaucoup d'enseignants peuvent avoir l'impression que les préconisations, que les constats posés par les sciences cognitives sont connus, qu'ils les appliquent, que par exemple la réponse traditionnelle des enseignants c'est mais ça fait belle lurette que nous ne faisons plus de méthode globale, que nous avons des méthodes mixtes, que nous prêtons attention au déchiffrage, etc. Donc c'est un peu un dialogue de sourds entre des chercheurs en neurosciences qui pointent les déficiences des situations d'enseignement apprentissage, des enseignants qui ne feraient pas ce qu'il faut faire, et des enseignants qui se défendent de dire mais finalement ils enfoncent des portes ouvertes en disant qu'il faut faire comme ceci, comme cela, etc. Donc il y a vraiment des tensions qui sont en train de se créer, au moins entre les syndicats et les neurosciences.
Oui, mais quand ils vont se rendre compte qu'ils disent à peu près la même chose, finalement les tensions vont peut-être s'atténuer, non ?
Alors je ne suis pas sûr qu'ils disent exactement la même chose surtout. En fait, il faut voir puisque les oreilles de Franck Ramu sifflent, qu'elles continuent à siffler peut-être deux fois, trois fois. Par exemple, les recommandations que Franck Ramu a dans le domaine éducatif, par exemple, quand il fait référence au psychiatre américain, méthode Casery, etc., on voit bien que le comportementalisme qu'il préconise comme étant validé par les méthodes scientifiques, etc., est quelque chose qui pose problème au niveau enseignant, etc. Donc il y a des méthodes qui sont défendues par les neurosciences qui, effectivement, sont susceptibles d'entrer en conflit avec le monde enseignant.
Gérard Pommier.
Oui, je suis content d'apprendre les grandes avancées des neurologues du 19e siècle commencent à être prises en compte, c'est-à-dire les découvertes de Broca sur le cerveau gauche, le cerveau droit, sur comment l'imagerie, en effet, peut relever ce qui se passe sur le cerveau droit, mais que tout est forcément vectorialisé dans un sens vers le cerveau gauche, c'est-à-dire le langage, et que le moteur de tout ce qui est éducatif pour un enfant, c'est la parole telle qu'elle se tient avec des enseignants ou avec des gens qui s'occupent de la souffrance psychique d'un enfant particulier, et que le reste, la méthodologie, encore une fois, c'est de la cuisine, ça peut être la méthode globale, ça peut être une autre méthode. ou ça peut être des recettes de grand-mère, quand on lit certaines recommandations de cognitivistes, qui sont des recommandations de bon sens, évidemment qu'on va être d'accord avec ça. Évidemment qu'on est d'accord avec des méthodes éducatives, mais ce sont des méthodes éducatives qui ne peuvent pas être globales, qui doivent tenir en compte la particularité de chaque enfant et de ne pas croire que c'est le cerveau à lui tout seul qui est le maître de la machine, pas du tout.
Oui, mais ce que nous a dit au début de cette émission Liliane Springer-Charol, c'est qu'il n'y a justement pas du tout de volonté d'hégémonie.
Mais si, le conseil est hégémonique. Il y a 12 personnes qui ont exactement, qui viennent des mêmes laboratoires, qui ont les mêmes centres d'intérêt, de recherche. Je veux dire, pourquoi n'y a-t-il personne des sciences de l'éducation? Si, il y a quelques personnes des sciences de l'éducation. Pourquoi n'y a-t-il aucun psychanalyste, par exemple? Mais ce qui s'appelle zéro, alors que les questions de la souffrance psychique des enfants sont traitées par ces spécialistes depuis les débuts de la psychanalyse, c'est-à-dire les problèmes de l'enfance, les problèmes d'apprentissage de la dyslexie en particulier, le fait que le corps soit un corps droit et un corps gauche, et que cet apprentissage soit commandé par cette division, pour lequel il n'y a aucun gène dans le cerveau qui soit décelé. Aucun. Voilà. Alors, donc, il faudrait, si ces comportementalistes, cognitivistes, veulent ne pas être hégémoniques, qu'il y ait un travail pluridisciplinaire. Nous avons prôné ce travail disciplinaire pendant des dizaines d'années. Des dizaines. Et nous aboutissons à quoi?
Mais ça, c'est au ministère de l'Éducation nationale qu'il faut le dire. C'est peut-être pas aux membres de ce comité qui sont là parce qu'on les a désignés, mais...
Ouais. Non? Ouais. Mais Monsieur Blanquer est un, je veux dire, a appartenu au même réseau que Monsieur Dehaene, que Monsieur Ramus, Agir pour l'école. Ce sont des réseaux qui sont bien connus, qui ont des options extrêmement raides sur les questions éducatives.
Stanislas Morel?
Oui, on le voit, hein, il y a une sorte de guerre là, scolaire qui est en train d'être réactivée avec des gens qui ne sont pas d'accord. Et là, moi, je serais assez d'accord avec Gérard Pommier pour dire qu'il est impératif de créer un travail pluridisciplinaire. Or, quand Liliane Springer-Charol dit que les sciences cognitives ont intégré les sciences de l'éducation, à mon avis, c'est une déclaration d'intention qui ne coûte pas cher, mais dans le fond, c'est compliqué. Il faudrait vraiment travailler à cette rencontre entre les disciplines, ce qui n'est pas évident, voire à y renoncer parfois et à laisser chacun travailler dans son coin, parce que travailler ensemble, aussi scientifiquement parlant, ça demande des sacrifices, des compromis qui, parfois, nuisent à la recherche. Donc moi, finalement, ce que je souhaiterais, c'est que l'on puisse à la fois mettre des programmes, mettre de l'argent et mettre du soutien sur des programmes de recherche pluridisciplinaires pour que finalement cette recherche pluridisciplinaire elle puisse réaliser, exister dans les faits et non pas simplement dans des déclarations d'intention, et qu'on laisse la possibilité aux différentes disciplines qui travaillent sur les apprentissages de travailler de manière autonome. Parce que pour un sociologue aujourd'hui qui travaille en sciences de l'éducation à l'université, pour avoir 2 francs 6 sous, il faut absolument faire un projet avec des cognitivistes. Travailler avec un historien, avec un géographe, avec un politiste, c'est consanguin, c'est de l'inceste. Alors, en revanche, la seule pluridisciplinarité, c'est avec les cognitivistes. Et ça, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut aussi laisser à la psychanalyse, aux sciences sociales, aux sciences humaines, une forme d'autonomie et privilégier aussi des recherches
pluridisciplinaires. Autonomie et pluridisciplinarité.
Oui, ensemble.
Liliane Springer-Charol.
Alors, je peux revenir sur 2 choses. Premièrement, ce que ont reporté les neurosciences par rapport aux découvertes fondamentales de Broca et de Wernicke, mais aussi de Dégérine. C'est Dégérine qui a trouvé le premier sujet qu'il ne pouvait
plus. Alors là, vous citez des noms qui me perdent un petit peu, mais bon, je vous laisse quand même poursuivre. Mais voilà.
Dégérine, c'est parce que la personne tout à l'heure a cité Broca et Wernicke, mais Dégérine, c'est un Français aussi qui a découvert qu'on pouvait perdre, en perdant une partie de son cerveau, qu'on pouvait perdre la possibilité de lire, tout en gardant la possibilité d'écrire et de traiter des formes visuelles. Ce qu'ont apporté les sciences cognitives, c'est des moyens d'investiguer ça, in vivo, et pas sur des cerveaux morts. Deuxièmement, alors sur la psychanalyse, là il y a des choses que j'ai du mal à accepter. Je vais vous dire quelque chose. Le mot « lire » est un mot qui, pour certains enfants, éveille quelque chose de totalement tabou. C'est le lit conjugal des parents. Au moment où l'enfant est en train d'élaborer son interdit de l'inceste, le verbe du lit, qui leur paraît alors être un mot, l'être le mot lire, rend ce mot banni et les activités qui l'entourent, le fait de lire, sont quelque chose qui le met dans un très grand trouble. Bien sûr, les maîtresses d'école ne le savent pas et cela doit rester inconscient. C'est le rôle de la psychanalyse de découvrir cela avec l'enfant à l'occasion de dessins de l'échec scolaire, Françoise Dolto, 1990. Et ça a été dit dans un colloque de sciences de l'éducation en 72, à quoi François Bresson, qui m'a formé, avait répondu « Mais madame, dans ce cas, la dyslexie, ça n'existe qu'en France ».
Bah alors je vais faire réagir Gérard Pommier forcément. Alors oui. Peut-être que si les cognitivistes doivent faire aussi un petit peu le ménage, peut-être que les psychanalystes aussi, non?
Oui, bien sûr. Mais j'adore Françoise Dolto qui m'a longtemps enseigné et qui a formé de nombreuses générations de psychanalystes d'enfants qui ont eu des résultats tout à fait extraordinaires avec non seulement la dyslexie mais toute une série d'autres problèmes de l'enfance. Alors on peut toujours isoler des citations de ce genre. Je pourrais vous en lire maintenant une citation de Dehaene fabuleuse si ça peut servir d'argument. Je ne crois pas que ça puisse servir d'argument, mais par exemple Dehaene à la page 1 de son livre « Le code de la conscience » déclare qu'au moment du rêve profond, les hommes ont une érection. Bon, est-ce que c'est vérifié? Est-ce que les messieurs qui entendent vérifient qu'à chaque fois qu'ils ont un rêve, ils ont une érection? Et les dames, qu'est-ce qu'elles vont dire alors quand elles font un rêve? Hein, vous pouvez lire ça à la page 1. Alors faire des citations comme ça qui sont dites à titre d'argument pour introduire un problème ne me semble pas très sérieux au point de vue scientifique.
Bon, j'ai peut-être une piste pour. J'aime bien toujours essayer un peu de trouver des points communs et peut-être une forme de une façon de réconcilier. Alors, je ne sais pas si on pourrait mettre la psychanalyse dedans, mais en tout cas, au moins les sciences sociales et les sciences cognitives. Stanislas Morel, c'est cette décision qui est prise pour. Alors, je crois que c'est de la prochaine rentrée, a priori. Pas sûr, de la scolarisation obligatoire des enfants à partir de 3 ans. Là, est-ce qu'on n'est pas finalement dans une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire de se dire à la fois, il faut scolariser tôt les enfants parce que c'est à ce moment-là que leur cerveau est le plus malléable, donc c'est comme ça qu'ils apprendront le mieux, mais c'est aussi une façon de lutter contre les inégalités scolaires parce que ça permet aussi à ces enfants de démarrer tous au même moment dans le monde éducatif. Donc là, on est dans le... Non, ça satisfait tout le monde, a priori.
Ça fait plusieurs décennies que les sociologues ont montré, à travers moultes enquêtes, que la scolarisation précoce était favorable aux apprentissages. Si les neurosciences arrivent 20 ans après et permettent qu'effectivement, on revienne sur quelque chose qui avait été déjà mis en place en partie, etc., et que c'est très bien, hein, voilà. Mais une collaboration pluridisciplinaire, on le voit, est urgente, parce que là, on n'arrête pas de s'envoyer des uppercuts à droite, à gauche. Comment faire pour travailler ensemble? Ça, c'est une autre question. Et je pense que le conseil scientifique, malheureusement, a réactivé ces luttes qui sont en ce moment alors une sorte d'acmé. C'est dommage. Et je trouve qu'il faudrait vraiment arriver à essayer effectivement de passer un petit peu au-delà.
Peut-être qu'après nous avoir écoutés, le ministre de l'Éducation nationale va essayer d'élargir ce conseil et vous proposer, pourquoi pas, d'y participer. Gérard Pommier, si on vous le propose, vous y allez?
Écoutez, oui, j'irai en courant.
Et ben voilà, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Enfin, je m'adresse potentiellement comme ça, voilà.
J'aurai le bonheur d'y rencontrer monsieur Ramus.
Voilà, par exemple. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Gérard Pommier, donc je renvoie à votre ouvrage « Comment les neurosciences démontrent la psychanalyse ?» C'est chez Flammarion. Stanislas Morel, « La médicalisation de l'échec scolaire » aux éditions La Dispute. Et Liliane Springer-Charol, « Lecture et dyslexie, approche cognitive », ouvrage que vous avez co-signé avec Pascal Collet aux éditions Duno. Merci à toute l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par l'ISCOM avec à la prise de son Audrey Guélil. Dans un instant, vous allez retrouver La Dispute avec Arnaud Laporte pour parler de musique.
Oui, Hervé Gardet, nous allons parler de musique. Vous vous en souvenez depuis une heure, c'est beau. Votre mémoire marche correctement, neurosciences ou pas. Demain, dans Du Grain à Moudre, quelle sera la question?
Le monde associatif est-il le supplétif du service public?
C'est long comme question.
Oui, mais c'est subtil.
On va simplifier pour demain?
Non, et vous allez y réfléchir.
D'accord, je me la redirai demain de toute façon. Merci beaucoup Hervé Gardette, il est 19h, vous écoutez France Culture, les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.